Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est les testicides.
Oh,
faut arrêter les testicides.
Ah,
la Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Yes, le micro, cool. Alors, bienvenue dans C'est la locale, il est 18h02. Et nous sommes en direct jusqu'à 19h. Au programme, c'est comme d'habitude, 3K12, des actus, de la musique, des interviews. Vous pouvez nous écouter aux alentours d'Alençon sur 90FM et dans le reste du monde sur notre site internet radiopulse.fr. J'ai trop de salive. Vous pouvez aussi nous rejoindre et communiquer avec nous via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Discord et Facebook. Tous les actus et les albums à gagner se font sur la page Facebook C'est de la locale. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des nouveautés et des thèmes de l'émission à l'avance.
Et ce soir, vous allez entendre l'interview de Esther, jeune étudiante à l'IUT d'Alençon en DUT carrière sociale option gestion urbaine. Je vous laisse tout de suite avec son interview.
Héloïse est de retour.
Eh bien oui, toujours.
Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste le DUT carrière sociale gestion urbaine ?
Alors, le DUT carrière sociale option gestion urbaine, ça va être basé sur tout ce qui est le territoire, les villes, les campagnes, sur des enquêtes sociales, des enquêtes de terrain, des enquêtes de géographie. On va réaliser aussi de la cartographie, par exemple. Toujours on reste sur une option, enfin pas une option mais une vision très sociale de tout ce qui va être la gestion du territoire. Ça va être prendre en compte la population surtout.
C'est quoi la cartographie ?
La cartographie, ça va être nous par exemple on utilise QGIS, c'est un logiciel qui va nous permettre de par exemple de représenter une ville par exemple et on va pouvoir par exemple identifier les hôpitaux, les écoles, les pharmacies. Et la cartographie, ça permet d'identifier selon une problématique et de représenter les besoins, représenter le territoire, représenter la ville.
Et, il me semble que le DUT carrière sociale, il y a plusieurs options. Elles sont toutes très différentes ou...
Oui, elles sont toutes très différentes. Il y en a 4. Et à Alençon, il y en a 2. Il y a service à la personne, où là, on va vraiment être concrètement sur du service à la personne. Hein. On ne peut pas mieux expliquer. Et gestion urbaine, où là, c'est vraiment sur de l'urbanisme, de la cartographie, et c'est plus spécifique. Mais après on a quand même des matières en commun tous ensemble en fait. Par exemple en première année on a de la sociologie en commun, on a aussi des cours sur la gestion de la France, sur le gouvernement, sur les présidents, enfin voilà.
Ok. Et le DUT c'est un peu entre le BTS et la fac. Comment ça se passe? Vous avez des cours en amphi, vous avez des stages?
Alors, justement, je pense que le DUT, c'est vraiment un entre-deux entre la fac et le BTS. Au BTS, on va être très encadré, il va y avoir des professeurs, ça va être dans une classe fixe, avec un emploi du temps fixe. À la fac, il n'y a pas d'encadrement. Si tu veux pas venir au cours, tu viens pas au cours. Et t'es plutôt libre dans ta façon de faire. Le DUT, tu vas être encadré et en même temps, tu vas être quand même plutôt relativement libre. Et tu vas pas avoir un emploi du temps fixe, ça va changer tous les jours. Tu vas être divisé soit en TD, soit en TP, ou alors ce sera du CM. Et voilà, on peut être encadré si on le souhaite, on peut demander aux profs de répondre à nos questions, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça va être plus
libre. Ouais, les profs nous connaissent. Et si vous n'êtes pas en cours, ça fait quoi?
Si on n'est pas en cours à Alençon, on perd des points. Je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres DUT, mais chez nous, c'est comme ça. Si on ne vient pas, on perd des points sur notre...
Il vaut mieux venir.
Oui, voilà.
Et du coup, est-ce qu'il y a des stages?
Alors, du coup, oui, en première année, il y a un mois de stage, mais nous, on n'a pas pu le réaliser avec le Covid l'année dernière. Et en deuxième année, il y a 2 mois de stage, et du coup, bah, là, normalement, on va les avoir, mais on ce n'est pas sûr.
Et le fait d'avoir un stage, bah, du coup, vous n'avez pas pu l'effectuer, mais c'est plus professionnalisant. Et un exemple d'établissement de stage où vous pouvez faire votre stage?
Quand on fait le DUT carrière sociale option gestion urbaine, en première année, comme c'est de l'observation, ça peut être des mairies, ça peut être des associations, c'est assez libre. Et en deuxième année, on nous demande de choisir un stage qui sera en lien avec notre objectif professionnel. Par exemple, si on veut s'orienter vers des métiers dans l'environnement, il faut que notre stage de deuxième année il ait un lien avec l'environnement. Voilà.
Ok. Et est-ce que vous avez des professeurs qui sont aussi des professionnels?
Ah oui, alors du coup, on a des professionnels, oui. Par exemple, on avait Monsieur Darcissac qui était l'ancien maire d'Alençon. On a des avocats qui sont, pareil, avocats à Alençon. On a différentes personnes qui interviennent en fait et qui, en plus de leur métier, viennent proposer des cours. Et on a aussi des professeurs. Alors on a des professeurs-chercheurs qui sont à la fois étudiants du coup qui préparent des thèses, ouais, et qui nous font en même temps cours. Et on va avoir aussi des professeurs de l'université, quoi.
Donc, par exemple, vos profs qui sont aussi avocats sont vos profs de droit, je suppose?
Oui.
Ok. Et est-ce que vous avez des contacts avec des professionnels? Pas en tant que prof, mais en tant que vous faites des enquêtes, etc.
Ah oui. Alors, du coup, surtout en deuxième année, on a des enquêtes de terrain où on va être en contrat. Par exemple, moi, je suis en contrat avec tout mon TP avec la CDC des sources de l'Orne, donc ça va être les communes autour de C. Et donc là, nous, on travaille avec eux pour un plan paysage. Et on a par exemple aussi travaillé récemment avec la ville de Vire pour le lac de la Datée, où avec des masters de Caen, on essaye de proposer des aménagements autour du lac ou sur le lac.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour ton projet là autour de C et celui de la Datée?
Des exemples de ce qu'on fait,
ouais.
Par exemple. Ok, bah alors déjà pour le projet survivre sur le lac de la Datée, nous on propose là des aménagements sur la biodiversité du sentier autour du lac. Donc ça va être déjà régler le problème de l'eau pour que la biodiversité prolifère beaucoup mieux et trouver des façons d'aider les animaux autour du lac à mieux vivre et à mieux se reproduire. Et voilà. Et par exemple, pour la CDC des sources de l'Orne, on a réalisé une maquette sur de l'ensemble du groupement de communes. Une maquette sur laquelle on va projeter un mapping, enfin plusieurs mappings d'ailleurs, un mapping sur quels sont les emplacements possibles pour placer des éoliennes, puisque c'est en cours de projet. On a aussi des mappings sur Où sont situés les agriculteurs dans l'Orne, parce qu'ils ont une place très importante, donc il faut les resituer. Et on a un mapping sur le tourisme. Qu'est-ce qui est proposé concrètement dans cette localisation pour le tourisme?
D'accord, donc tous vos projets peuvent être réalisés concrètement?
Oui, tous nos projets peuvent être réalisés. Après, c'est à valider. Avec la CDC des sources de l'Orne, c'est plus concret parce qu'on sait que notre maquette, ils vont la récupérer, nos mappings, ils vont les récupérer. Nos projets sur VIR, c'est des propositions de projets. S'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, c'est pas une obligation pour eux de les prendre.
Okay. Mais je pense que c'est quand même motivant d'être étudiant et de se dire que les choses sur lesquelles on travaille vont peut-être être réalisées dans une vie. Comment vous avez réalisé la maquette?
Alors, la maquette, on l'a réalisée à Alençon. Il y a un Fab Lab qui est prêté par l'IUT, du coup, et où nous, on va d'abord sur un logiciel préparer les différentes plaques, parce que ça va être une accumulation de plaques collées entre elles. Et une fois qu'on a réalisé toutes nos plaques sur ordinateur, on va les mettre au Fab Lab à l'impression. Donc c'est des découpeuses laser qui s'occupent de découper chaque plaque une par une. C'est très long à faire. Nous, ça nous a pris 12 heures au total à réaliser. Et il faut ensuite coller plaque par plaque pour obtenir la maquette. Et la nôtre, je crois qu'elle fait à peu près 2 mètres sur 2 mètres.
Ok. Et comment ça se passe avec la crise sanitaire actuelle pour vous, justement, vos projets? Vous arrivez à les réaliser? Vous arrivez à être en contact? Les cours, comment ça se passe?
Alors nous, c'est quand même beaucoup plus compliqué en ce moment parce que on voit pas beaucoup de profs. Je pense qu'on est mieux en DUT qu'à l'université parce qu'on là, on nous propose quand même de venir à certains TP. En l'occurrence pour le projet de la CDC des sources de l'Orne, parce que ça devient très compliqué de travailler en groupe quand on se voit pas. Et on a besoin de logiciels qui sont à l'IUT en plus. Et c'est pratiquement le seul TP où on nous propose de venir à l'IUT. C'est pas obligatoire et ça pourra pas l'être pour l'instant jusqu'à ce que le gouvernement nous dise le contraire. Donc c'est que ceux qui le souhaitent qui peuvent venir. Et sinon, c'est que de la visioconférence. Et je pense que faut s'accrocher parce que c'est assez difficile d'avoir quelqu'un qui parle et juste de devoir écouter pendant une heure et demie. Il n'y a pas d'échange humain, c'est vraiment un ordinateur qui parle, quoi.
Et pour vos notes, du coup, comment ça se passe?
Alors pour nos notes, je pense que avec le Covid, on s'en est sorti pas trop mal au final. On a tous eu notre semestre là, mais c'est différent parce que on n'a pas écrit sur une feuille. Évidemment, on sait qu'il y a l'accès à Internet, il y a plein de choses.
Hein, qui sont,
Donc c'est différent, ça dépend des profs. Soit on va rendre des rédactions dissertation, soit on va avoir des QCM à faire, soit on va avoir des synthèses de projets à rendre. C'est vraiment selon l'envie des profs, selon le temps qu'ils ont aussi, parce qu'il y a des professionnels qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tout ça, quoi.
D'accord, donc là dans la journée par exemple vous avez cours à travers l'ordinateur et vous écoutez les profs parler toute la journée.
Voilà. Là c'est ça, après ce matin c'était comme ça et cet après-midi par exemple on va à l'IUT et on va un petit peu plus se voir parce qu'on va travailler sur notre projet avec la CDC des sources de l'Orne, quoi.
Ok, et vous êtes combien à aller en présentiel?
Alors,
à peu près
ça dépend. Si on, en TP on est 12 déjà. La dernière fois on était 5, des fois on est 2. Et après là je pense que les gens commencent à avoir de plus en plus envie de venir, donc il y a de plus en plus de monde. Il y a moyen qu'on finisse par être 12, quoi.
Le problème c'est peut-être la distance.
Le problème, oui, c'est ça, c'est la distance, parce qu'il y en a qui habitent super loin, qui habitent au fin fond de la Bretagne. Donc venir pour quelques heures de cours en présentiel par semaine, évidemment c'est pas forcément très motivant. Et être enfermé après dans un appartement pour écouter le reste des visios, c'est un petit peu déprimant, quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
De rien.
Et voilà, c'était l'interview de Esther, étudiante en carrière sociale, option gestion urbaine à Alençon.
Cette radio fait partie de la FERAROC, la Fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.feraroc.org.
Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir.
C'est sûr, tu veux pas que je fasse la plus longue d'après ?
Non, mais...
Sûr, sûr. Bon allez, on va vous faire la première Feractu et le premier album à gagner qui est 30 Minutes Off du groupe Music on Hold qui est sorti le 5 février 2021 sur Born Bad Records. Waiting for the Sun, une posture d'attente qui n'aura pas eu le trio parisien en signant sur le label Born Bad. La musique de Music on Hold est en effet simplement arrivée avec sa démo sous le coude remplie de soleil contagieux. Il n'en faut parfois pas beaucoup plus pour vous convaincre. Nickel ça. En 10 titres sacrément bien troussés, les textes traitent de sciences sociales, questionnent notre libre arbitre, racontent la collectionnite des fans de
vinyle. Collectionner.
Quoi ? Des fans de vinyle rêvent autour d'un monde d'avant.
Retour au monde d'avant.
Ouais.
Tout de suite, on vous laisse avec le titre No Eagle Die.
J'ai pas tout compris.
Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est testicide.
Oh.
Faut arrêter le testicide.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Bonne chose, mais vous avez certainement entendu sa voix. On vous laisse avec l'interview, mais si vous trouvez l'acteur, les acteurs dont il est la voix officielle, en DM Insta de Radio Pulse, je vous offre mes rognures d'ongles.
Non,
tout de suite, l'interview. Donc, comment avez-vous commencé le théâtre ?
J'ai commencé en prenant des cours de théâtre, tout simplement. Quand je venais d'avoir mon bac, c'était la condition sine qua non. Et ensuite, j'ai eu le droit de commencer les cours de théâtre en même temps que j'ai fait l'université.
Très bien. Vous avez fait les cours Florent ?
J'ai commencé par le Studio 34 et ensuite, je suis allé chez Florent à la classe libre et ensuite au Conservatoire National.
Très bien. Et après ce conservatoire, vous avez intégré la Comédie Française, c'est bien cela ?
Exactement.
Et du coup, comment est-ce que vous avez vécu cette intégration à la Comédie Française ?
Comme une chance unique. J'y croyais pas puisque j'étais là en tant qu'élève. J'étais engagé en tant qu'élève pour aider à un moment pendant des répétitions d'un spectacle que je ne devais pas jouer. C'était juste pour faire les répétitions. Et finalement, ils ont eu besoin de moi pour les représentations. Donc, je l'ai fait.
D'accord. Quelles sont les pièces qui vous ont le plus marqué ?
Il y en a beaucoup, mais celles dans lesquelles je me suis le plus amusé ou le plus éclaté, ce sont soit les faits d'eau, soit les pièces modernes que j'ai eu la chance de jouer et de créer quelquefois, comme Arcadia, par exemple, au Vieux Colombier, une pièce de Tom Stoppard qui était un grand succès à Londres et qu'on a eu la chance de jouer à Paris après. Donc voilà, ça c'était les classiques, j'aime bien ça, mais c'est pas le même... Enfin, c'est autre chose, quoi. Les souvenirs les plus marquants que j'ai sont dans ce genre de spectacle.
D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous êtes rentré dans l'acting ?
Ben comme ça, en prenant des cours.
D'accord. Et pour après faire, on va dire, le switch vers le cinéma, ça a été plus simple ou plus compliqué ?
Non, c'est pas... Enfin, encore une fois, il n'y a qu'un seul métier. On ne fait pas du cinéma ou du machin ou du truc. On est comédien, donc à partir de là, on a soit la chance de rencontrer, d'avoir des opportunités, soit on ne l'a pas. On a le goût de ça ou pas. Moi, j'avais envie de faire de l'image parce que j'ai passé ma vie sur scène au théâtre et que j'avais besoin d'autre chose. Donc j'ai eu la chance de passer des castings. On en loupe 99% pour en avoir un quelquefois. J'ai eu la chance d'en réussir un qui m'a donné l'opportunité de faire un peu de télé et de faire un peu tout dans ce métier, quoi, au bout d'un moment.
D'accord. Et est-ce que ça marche de la même façon pour le doublage ? Vous êtes casté ou comment est-ce que ça se passe ?
C'est pareil, il y a des essais aussi pour le doublage.
Très bien.
Quelquefois, quand vous êtes sur un comédien que vous faites depuis longtemps, évidemment, on ne vous redemande pas de refaire des essais, encore que ça arrive quelquefois. Mais sinon, il y a des essais, oui, souvent.
Et qu'est-ce qui change entre le fait d'être doubleur et comédien ?
Alors, je ne suis pas doubleur. Les doubleurs, ce sont les sociétés qui s'occupent qui gèrent des doublages. Moi, je suis comédien de doublage, comme comédien de théâtre ou de cinéma, etc. C'est quelque chose d'important parce qu'au bout d'un moment, les gens disent c'est le doubleur de... Non, c'est pas le doubleur de, c'est un comédien qui prête sa voix à... Très différent.
D'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de mômes après qui se disent « moi je veux pas être comédien, je veux être doubleur ». Et ça ne veut rien dire. Et c'est la base et l'important, c'est le métier de comédien. Et c'est ce que beaucoup de gens ont tendance un peu à oublier ou à ne pas vouloir comprendre ou voir pour pouvoir faire ce métier.
Très bien.
Précision.
De quelle manière la crise du Covid-19 vous a impacté ?
Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il n'y a plus rien, que tous les théâtres sont fermés, que les tournages sont en portions congrues actuellement, que tous les doublages, comme on dépend de ce qui a été tourné, sont ralentis aussi, puisqu'il n'y a plus de matière première à doubler quasiment. Donc voilà. D'accord. Impacté à 80%, un peu moins que ceux qui ne font que du théâtre, évidemment, mais impacté énormément tout de même.
D'accord. Et vous pensez que l'État pourrait apporter des aides au métier de l'art ?
J'en sais rien, je suis pas politique. Ils ont aidé les intermittents en gardant leurs droits un an de plus, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que moi, je ne touche pas un centime en tant qu'intermittent, donc je suis au chômage à 0% depuis un an, quoi, quasiment. D'accord. À part quand je travaille, et heureusement, j'ai eu la chance de travailler un peu. Mais c'est compliqué, ouais, c'est super compliqué, comme les restaurateurs, qui ne sont pas aidés quelquefois.
Très bien. Est-ce que vous avez des projets pour 2021 qui arrivent à se dessiner malgré cette crise ?
Bah oui, il y a les séries que je doublais qui vont forcément avoir une suite, donc j'espère qu'elles vont arriver à un moment ou à un autre. Mais c'est tout, quoi. Les autres projets, tout est hypothétique.
Et justement, ces suites-là, vous les attendez avec impatience ou est-ce que vous en profitez pour vous diversifier dans d'autres choses ? Écrire, par exemple, des pièces ou quoi que ce soit ?
Je me diversifie dans plein d'autres choses. J'apprends, je travaille, je déteste être inactif, donc je fais plein d'autres choses personnelles à côté. Et heureusement, mais j'ai mes enfants et je m'occupe d'eux et tout va très bien. Mais très bien. Il est temps que ça recommence quand même.
Comment s'organise, on va dire, une journée type pour vous ?
Quand je travaille ? Mm-hmm. Bah, ça dépend. Soit c'est une journée de doublage et vous vous levez, vous allez au studio, vous enregistrez, vous revenez. Soit c'est une journée de tournage, c'est la même chose, mais vous allez ailleurs sur un tournage. Vous apprenez votre texte le soir et vous le tournez le lendemain. Soit c'est du théâtre et donc c'est des répétitions pendant un mois, deux mois. Et ensuite des représentations, vous allez en studio dans la journée pour faire du doublage. Le soir, vous êtes sur scène. Enfin, voilà. C'est une vie qui peut être très riche, très compliquée et très vide aussi par moments, comme en ce moment. Et ça change beaucoup de choses. C'est très bizarre.
Et une journée type à la maison ?
Ben, une journée type à la maison, c'est s'occuper des enfants et ensuite travailler aux choses qui vous intéressent pour s'ouvrir un peu l'esprit et découvrir des choses. Voilà.
Donc, à la fin des interviews, j'aime bien mettre des questions un peu plus légères, parce que voilà, ça fait partie de ce que je fais. Donc, pour vous, quel a été le personnage le plus fun à interpréter ?
Oh, le plus fun ? Je crois que c'est au théâtre qu'on peut parler de fun. Parce qu'il y a le vrai plaisir du jeu, entre guillemets, avec un retour concret du public, ce qu'on n'a pas au cinéma, et ce qu'on a peu en doublage aussi. Et donc je crois que c'était justement dans Arcadia de Tom Stoppard où je me suis le plus amusé.
Très bien. Si vous deviez collaborer avec n'importe quelle personne de votre domaine, vous choisirez qui et pourquoi ?
J'aimerais bien travailler avec un grand réalisateur de cinéma. Et je ne vous donnerai pas de nom parce que je ne sais pas lequel. Si, un Nolan ou un Fincher, par exemple, pour les voir travailler et avoir la chance d'échanger avec eux sur un projet.
Si demain, un jeune ou une jeune personne vous demande des conseils pour se lancer dans le métier de comédien, vous lui diriez quoi ?
Que c'est pas le bon moment.
D'accord. C'est tout ?
Ah ouais, pour l'instant c'est tout. Malheureusement, je vois tellement pas d'avenir pour l'instant sur ce métier actuellement que je peux pas lui dire allez-y. Et surtout, de toute façon, il aura pas besoin de moi s'il a envie d'y aller, donc c'est le meilleur service que je peux lui rendre. Ça l'empêchera pas de le faire s'il en a vraiment envie.
S'il en a vraiment envie.
J'ai coupé un, pas tort, hein.
Un peu trop court l'interview, mais c'est vrai,
c'est pas le bon moment.
C'est clairement pas le bon moment.
De toute façon, pour tout le monde de la culture et pour tout ce qui est commerce, alors c'est pas le moment pour beaucoup de monde.
C'est vrai. Donc c'était notre interview avec Jean-Pierre Michael, comédien, acteur prolifique, mais aussi voix officielle de...
Brad Pitt.
Oui, bravo, tu vas gagner des rognures d'ongles.
On avait Brad Pitt ce soir avec Rives. Une
voix. Oh, la voix française de Brad Pitt, calme-toi. Bon bref, fais l'affaire actu, s'il te plaît.
Alors, donc l'album a gagné cette semaine, donc c'est Bacchante du groupe Bacchante qui est sorti le 5 février 2021. On n'est pas d'accord sur la prononciation avec Rémi comme d'habitude. Il est sorti sur Figure Libre Records et ça signifie prêtresse.
Pas mal.
En français. C'est plus facile en français. Donc, il y a la mythologie, celle des livres, de la poussière et les histoires que l'on s'approprie. Bacchante n'est pas un groupe d'aujourd'hui, ni celui d'hier. Elles sont quatre, ce sont quatre femmes. C'est un fait, elles jouent du rock, ont monté des instrumentariums qui leur est totalement propre entre acoustique et électrique, guitare, batterie, clavier et harmonium indien. Elles ont immédiatement su que la versatilité de leurs expériences serait un socle de construction artistique fort et un cri au monde. Derrière chaque instant sombre surnage des éclaircies à venir, les horizons se dégagent de manière inexorable. Bacchant nous a fait accepter que la douceur est projection fantasmagorique en remettant en forme électrique et ses savoirs anciens. Bacchant s'inscrit pleinement dans le présent. De regard, elle dicte le tempo de nos émotions et nous embarque dans cette messe païenne redéfinissant les joues médiévales. Bacchant est une proposition hors du temps qui ne souffre d'aucun repère. Fermez les manuels, les réponses se trouvent sur scène, lumière allumée et gobelet rempli. On espère que tout ça pourra revenir bientôt. Tout de suite, on vous laisse avec le titre Aride.
Thank you.
Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est l'esthésite.
Oh.
Faut arrêter l'esthésite.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Partir avec, elle veut repartir avec l'album.
Ça, moi, si je m'en fiche, si vous voulez dessus, gagner l'album, il y en a deux à gagner. Non, et bah, vous commentez la publication de C'est de la locale sur Facebook. Tôt. Arrête de parler quand je parle. Donc si vous voulez gagner les deux albums, vous commentez la publication Facebook. La pochette, elle est très belle. Les caméras ne sont pas allumées, je crois. Mais c'est quatre indiennes de dos. Et bref, c'est très, très beau. Tout de suite, on va vous passer la musicale.
La musicale.
L'amicale des radios musicales de Normandie
vous présente le local de l'étape.
Salut, c'est Mathieu d'Animal Triste. Je suis batteur de ce groupe de rock normand, plutôt basé à Rouen, même si certains de nos musiciens sont d'Évreux et un petit peu d'ailleurs. Nous venons de sortir notre premier album le 4 décembre sous forme de vinyle avec un petit CD à l'intérieur. Ce groupe en fait a été fondé après une soirée au Calife, le Calife qui est donc une salle à Rouen, après un concert. Et nous devisions avec Yannick, le chanteur, qui est aussi chanteur de la Maison Tellier, et Fabien, avec ce guitariste de Radio Sofa, et on se disait que voilà, qu'on avait du mal à entendre le rock qu'on aimait vraiment, celui qui venait de nos origines, à savoir Nick Cave, Les Doors, Black Rebel, Motorcycle Club et tout ça. Et puis on s'est dit que ce serait peut-être marrant d'essayer de faire la musique qu'on écoute vraiment, d'avoir envie de s'amuser. On s'est enfermé dans un petit local, on a commencé à composer d'abord sur l'ordinateur et puis on a été rejoint par Cédric, le bassiste, et de fil en aiguille se sont greffés Seb et David, donc Seb à la guitare et David au clavier guitare, et on a commencé à mettre au point doucement mais sûrement un set qui nous a semblé tenir la route. Enfermé dans un studio chez David Fontaine en février 2020, ce qui nous a laissé tout le premier confinement pour mixer cet album avec Étienne Kelou. C'était intéressant parce qu'on a eu vraiment l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. On était vraiment très loin, très reculé, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Et c'était un peu comme s'il y avait une espèce de guerre atomique, quoi. On est sorti du studio et puis voilà, le monde était pété, il n'y avait plus rien qui marchait. Et voilà, donc il y avait une ambiance de fin du monde qui était assez intéressante. Ce disque qui est un peu abrasif, un peu rock et qui était enregistré dans une énergie festive et joyeuse, même si la musique ne l'est pas, bien évidemment, marquera à vie puisque c'était vraiment la fin ou le début de cette nouvelle ère un peu sombre. Le disque est donc sorti le 4 décembre, donc il est un peu partout, sur toutes les plateformes possibles et inimaginables, streaming, Fnac, enfin tous les magasins que vous imaginez. On en est fiers, on en est hyper fiers, voilà, c'est l'album qu'on voulait faire sans aucun compromis, sans regarder derrière, en avançant et en faisant cette musique qui, je trouve, un petit peu pas assez éclairée aujourd'hui. Faire du rock, c'est pas être passéiste, loin de là, on avait juste envie d'avancer, de faire les choses comme elles nous semblaient, dans le bon sens et avec les bonnes personnes, donc c'est un peu notre bébé électrique, ce premier album d'Animal Triste, on en est fier.
Et voilà, tout de suite, on va vous repasser une deuxième musique du groupe Music on Hold. Elle s'appelle Top of the Bridge, avec mon superbe accent anglais, comme d'habitude.
Killing the light.
Moi, je dis ce soir avec l'affaire Rock que de la bonne musique.
Ah, si tu le dis.
Moi, j'aime bien.
Moi aussi, j'aime bien. Le doc, il bug. Ah, je n'ai pas accès à ma chronique. Ah, on va être obligé de tout riboter. Non, c'est bon, en fait, ça va. Ça va.
Super.
Et du coup, tu sais de quoi je vais vous parler ce soir?
Non, je ne sais pas, dis-moi.
T'es sûr? Tu ne lis pas le document?
Deep Purple.
Oui. Bravo. Du coup, je vais vous faire ma petite chronique que j'ai écrite il y a un petit bout de temps déjà sur mon ressenti sur l'album Machine Head, vraiment un gros gros pilier du hard rock qui est sorti...
Très très récent à ce que je vois.
Oui, qui est sorti en 1972, extrêmement récent. Donc, je vais vous parler de Deep Purple, groupe iconique du hard rock, formé en 1968. Effectivement, c'était il y a un petit bout de temps. Et je vais développer plus en profondeur leur album Machine Head, sorti en 1972. Composé de Ian Gillan au chant, Richie Blackmore à la guitare, John Lord au clavier et Roger Glover à la basse, et sans parler de Ian Paice à la batterie, ce line-up arrivera à produire le meilleur album du groupe, et pour cause, il est considéré par beaucoup de puristes comme l'un des meilleurs albums de hard rock. Rien que ça. Et l'album commence fort avec le titre Highway Star, qu'on vous diffusera juste après, qui résume à lui seul le reste de l'album, ou presque. Le morceau évolue avec beaucoup de changements de rythme, de mélodies variées, de solos de guitare et de clavier très techniques, des montées et en prime une intro en crescendo typique du hard rock. Pour les 5 autres morceaux de l'album, il reste à peu près similaire, mais sans tomber dans la redondance, ce qui fait de cet album un très très bon album. Pour vous faire une idée, je vous laisse écouter les titres Space Trucking, Lazy ou Pictures of Home, sans parler de leur titre Smoke on the Water, que tout le monde connaît, hein, qu'a fait la bande originale de Hellboy, que tout le monde a appris quand il a commencé la guitare, le fameux tin-tin-tin-tin-tin-tin, le truc bien dégueulasse là, qui éclatait les oreilles de vos parents. Et pour parler des paroles, elles sont assez mélancoliques et tristes, ce qui contraste avec justement la joyeuseté de tout ça, voilà, de toutes les mélodies, et on y reviendra. Les titres Maybe I'm Leo et Never Before parlent d'une rupture amoureuse, plus ou moins. Lazy parle d'un homme dépressif et suicidaire, et Smoke on the Water parle de l'incident qui est survenu lors de l'enregistrement de l'album à Montreux en Suisse, qui est l'incendie du casino pendant le concert de Frank Zappa. Et les mélodies sont très entraînantes, dansantes et groovy, et ont ce côté blues très caractéristique du genre. Honnêtement, vraiment, les chansons, elles sont intemporelles et méritent d'être remises au goût du jour dans un film comme Les Gardiens de la Galaxie. Je vous laisserai en juger avec la musique qu'on va vous diffuser après. Pour moi, c'est un grand album et je pense qu'il est dans l'intérêt commun de l'écouter. Rien que ça.
Et donc, oui, tout de suite, oui, on écoute le titre.
J'ai un maximum de prétention, excusez-moi. Et on écoute le morceau Highway Star, justement, de ce fameux album. We'll be right back. J'adore.
J'adore. Alors, bon. C'est vrai que moi, je trouve qu'on a beaucoup de chroniques sur le hard, le rock, le metal et tout ça. Du coup, moi, je me propose la semaine prochaine à faire une chronique sur le reggae parce qu'on va un peu calmer tout ça.
Pas de soucis, pas de soucis.
Moi, je suis plus reggae, soul, on va faire un plus détendu, là, plus calme.
Ça me va très bien, mais c'est vrai que j'ai un peu trop tendance à mettre du rock et du metal et un peu de punk.
Un peu beaucoup trop.
Oui, parce que c'est ce que j'écoute la plupart du temps, mais j'adore le reggae, je vais pas m'en plaindre, mais j'en parle pas assez parce que ma culture musicale sur le sujet est nulle.
Du coup, je vous propose la semaine prochaine, on va se détendre un peu et on va écouter du reggae, ça va être beaucoup plus détendu.
Eh bien, écoute, on essaiera de proposer différentes chroniques sur le rock, le reggae, et faire en sorte que tout soit varié. Voilà. Si jamais vous avez des idées, très chers auditeurs, n'hésitez pas à nous en faire part sur la page Facebook, c'est de la locale. Voyons.
Exactement, parlez avec nous, voyons. Et justement, on va parler de la culture musicale. Comment la culture musicale elle vient à nous ? Est-ce que chacun écoute la musique de ses parents, de ce qu'elle a appris à l'école ? Bon, si vous écoutez ce que vous avez appris à l'école, ça ne doit pas être terrible, mais bon.
Tu sais quoi ? Posons la question à toi-même, Héloïse. Comment est-ce que t'es venue ta culture musicale ? Déjà, qu'est-ce que tu écoutes et pourquoi écoutes-tu cela ?
Alors, ce que j'écoute, c'est très varié. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous n'avez pas le choix de nous écouter de toute façon.
La condescendance.
Alors, moi déjà, j'écoute de tout. Comme je te disais tout à l'heure, ça peut aller du reggae, genre dans ma playlist, tu peux avoir du reggae, entre deux, tu peux avoir du rock. Et il y a aussi de la musique pas terrible. Pour vous donner une idée de ma playlist, tu peux avoir du Led Zeppelin et en dessous du Aya Nakamura. Est-ce que vous voyez ou pas ?
C'est genre vraiment c'est le truc le plus éclectique au monde, tu vois.
Quand c'est je comme dis quand que tu rentres dans de
un...
tout.
C'est comme quand tu rentres dans un magasin, tu vois un rayon chaussures, tu tournes la tête, tu vois un rayon fromage, tu vois. C'est exactement l'impression que me donne ta playlist, tu vois.
Et mais ma playlist, c'est ça entièrement. Je vous ai donné qu'un exemple, mais ça peut être encore plus que ça. Et je trouve que c'est très bien de s'ouvrir à tout. Et d'écouter tout ce qui est possible à écouter. Il faut s'ouvrir au monde de la musique.
Eh bien, écoute, je n'aurais pas dit mieux.
Il n'y a pas de musique nulle.
C'est vrai. Enfin...
Non.
Est-ce qu'on peut juger l'art de manière critique ?
Je ne sais pas.
Je ne pense pas.
Et toi, d'où vient ta culture musicale ?
Écoute, pour parler du rock et tout ça, ça vient surtout de ma famille, puisque mon père écoutait, quand on était plus petit, du AC/DC, tout ça, du Bolo, pour maintenant Cannibal... Si vous nous regardez ou nous écoutez, je vous fais des gros bisous. Et du coup, ça m'a un peu façonné, mais je ne me suis jamais trop dit. J'écoutais un petit peu de tout quand j'étais petit. Et puis un jour, mon frère est arrivé à la sortie du collège avec l'album Slipknot volume 3 de Subliminal Verses. Il l'a mis et j'ai fait, putain, c'est bien quand même. C'est cool, j'aime bien quand ça fait ta-ta-ta. Quand ça m'éclate les oreilles. Et puis de fil en aiguille, je commençais à écouter Metallica, pas mal de trucs et... Voilà, où est-ce que j'en suis maintenant ?
La prog du Hellfest, quoi.
Le prog du Hellfest. Metallica n'a jamais joué au Hellfest.
Non, mais je sais.
Tu n'es pas un puriste. Ah, je suis vraiment un connard. Incendiez-moi dans tous les commentaires que vous pouvez trouver.
Bon. Dans tous les commentaires, ok, d'accord.
Tous les commentaires, DM Insta, DM Facebook. Je n'ai absolument rien compris.
Tony qui a essayé de nous dire quelque chose.
Tony qui a parlé en patois.
On demandera... Dans une émission dans la semaine, on va essayer de choper Tony et de lui demander d'où vient sa culture musicale. Il va dire, je travaille dans une radio.
Oui, bah écoute, c'est déjà un bon vecteur de culture musicale. Et voilà, qu'est-ce que tu écoutes majoritairement, toi ?
De tout, j'ai dit. Non, des musiques plus calmes, des musiques chansons françaises, variétés françaises.
Et tes artistes préférés.
Ok, d'accord, c'est l'heure de faire de la pub et de placer. Izia Higelin et Damien Seize. Voilà. Et sinon, il est 58, donc ce soir, après nous, il y a le Trafalgar.
Oh.
Et demain, on se retrouve dans Cédula Locale avec encore du métal, puisqu'on va avoir l'interview de Raven.
Oh.
Et on aura deux sons en exclusivité à passer demain. Et on aura aussi l'interview d'une commerçante d'Alençon qui va ouvrir une nouvelle boutique. Des choses qui ouvrent à Alençon et non, tous les commerces ne ferment pas, il y en a aussi qui ouvrent.
Eh bien, on a hâte, comme dirait Jean-Pierre Fernand.
Sur ce, à demain. We'll be right back.
station de commande, ici ST3.